Chers auditeurs, bonsoir. Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Ce soir, chers auditeurs, ça sera la première de trois émissions sur le thème suivant. Ce futur qui avance parmi nous. Ce futur est parfois localisé, parfois incertain, très souvent trouble, contrasté, heurté. Au XXe siècle, deux livres en particulier ont proposé deux visions du futur qui chaque jour se concrétisent de plus en plus. Le premier ouvrage est 1984 et le second Le meilleur des mondes. 1984 a été écrit par George Orwell en 1949. Il en ressort ce thème du Big Brother, cette figure des régimes policiers totalitaires. Dans son ouvrage, il décrit un pays où la liberté d'expression n'existe plus, et où toutes les pensées sont surveillées, et où partout est placardée cette phrase « Big Brother nous regarde ». En fait, il s'agit de Londres en 1984, après une guerre nucléaire entre l'Ouest et l'Est. Tel est le fond de ce roman. Le second, c'est « Le meilleur des mondes », écrit par Aldous Huxley, qui paraît en 1932. 25 ans plus tard, il écrira un autre livre, « Retour au meilleur des mondes ». Ce livre « Meilleur des mondes » a été écrit à Sanary, dans le Var, ne l'oublions pas. L'immense majorité des êtres humains vit dans ce livre, vu par ce livre, au sein de l'État mondial, où le nombre de sauvages encore dans les réserves est limité. Dans cette société, la reproduction sexuée telle qu'on la conçoit a totalement disparu. Il y a des êtres humains, cadres supérieurs, inférieurs, les alphas, les bêtas, les gammas, les deltas et les epsilon. Les gens mangent un produit, le soma, qui continue de les conditionner. Ces deux visions du futur, l'une et l'autre, révèlent la dimension du conditionnement. Repris ce mois-ci par le monde diplomatique, qui sort un remarquable numéro spécial, vous êtes tous surveillés. Au-delà de ces deux visions, nullement absente au moins à l'état de trace dans notre société, je vous invite à explorer ce futur d'une façon variée. Pour ce faire, nous allons faire appel à des personnes, à des experts de la région PACA. Oui, notre région dispose de chercheurs, de penseurs, d'écrivains, d'experts pour explorer ce futur. Ce soir, nous allons en accueillir deux. Dans la première partie de l'émission, Pierre Lemarquis, et dans la seconde, Philippe Granarolo. Le premier, Pierre, et médecin, neurologue, et aussi musicien. Pierre est un grand philosophe et un expert de Nietzsche, et il nous dira en particulier quelle est la vision de Nietzsche pour le futur. Mais commençons par accueillir Pierre Lemarquis. Bonsoir Pierre, merci de participer à cette émission. Alors, pouvez-vous tout d'abord, Pierre, vous présenter un peu? Vous avez un parcours extrêmement original. Vous êtes non seulement neurologue, mais vous faites aussi plein de choses. Alors, je vous laisse la parole.
Eh bien, disons que je suis intéressé à la neurologie, parce que tout ce qui m'intéressait, c'était les comportements humains. Je ne savais pas encore que ça s'appelait de l'éthologie. Donc, la neurologie ou la psychiatrie paraissaient les voies d'études les plus appropriées. Donc, j'ai passé un internat, un clinica sur Marseille. Dans le même temps, je m'intéressais donc à tout ce qui était électrophysiologie, électroencéphalogramme, électromyographie, et puis à la neuropsychopharmaco. Et puis, pour m'amuser, pour élargir l'horizon, je suis intéressé à la médecine chinoise. J'ai passé un diplôme de médecine chinoise, un diplôme de sexologie avec Madame Bonnerville Branchereau, donc il y a 25 ans, et puis un diplôme de médecine de plongée. Et puis, par la suite, j'ai pu poursuivre un petit peu la recherche en éthologie. Puis maintenant, je m'intéresse également à la phénoménologie et ses applications en médecine, ce qui fait parcours varié intéressant. Et puis, en dehors de ça, bien entendu, la musique qui restait très important, parce que j'ai eu la chance d'être petit chanteur à Croix-de-Lorraine, de faire des tournées en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, et puis d'être organiste d'église entre 15 et 25 ans.
Quelle complexité!
Par la suite, donc, Boris Vionik m'a demandé de rentrer dans son groupe de recherche au vieillissement et résilience, en m'occupant de la musique, ce qui a permis de développer mes activités dans ce domaine. Et puis, là aussi, je m'occupe d'un festival de musique en Corse du Nord, qui s'appelle, enfin, Haute-Corse qui s'appelle Musica Classica. Et puis, je suis vice-président d'un orchestre qui s'appelle les Harmonies d'Orphée, donc qui se produit dans la région varoise, dont le directeur, le chef d'orchestre, est Maximilian Fréchel, qui est un Viennois, un chef d'orchestre viennois qui a eu l'occasion de jouer toute la musique de Mozart au cours de sa carrière et qui a été l'assistant de Karajan.
Voilà, quel parcours. Et en plus, je crois, Pierre, vous avez écrit deux livres.
Voilà, donc un premier donc sur Sérénade pour un cerveau musicien, Chaudil Jacob, donc qui recense un petit peu tout ce qui a pu être publié de manière scientifique sur les effets de la musique sur le cerveau. Et puis un second qui élargit le point de vue en ajoutant les arts visuels et la beauté, quoi, les effets de la beauté sur notre cerveau, puis sur notre vie en général, en quoi la beauté, la musique peuvent nous aider à vivre, à accepter l'existence.
Alors Pierre, dans le cadre de cette première émission sur ce futur qui avance parmi nous, c'est non seulement au neurologue, mais à cet homme, à cet humaniste qui a des approches très complémentaires, très complexes, j'ai envie de poser la question, comment percevez-vous ce futur parmi nous et comment le voyez-vous dans l'avenir ?
Alors, sous l'angle de la neurologie, il y a énormément de progrès en cours. Alors peut-être l'un des progrès qui était l'un des plus étonnants, c'est ce qu'on peut appeler l'entraînement mental. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on imagine faire quelque chose, notre cerveau fonctionne comme si on le faisait réellement. Vous voyez, Wittgenstein disait je lève mon bras se lève. Quelle est la différence ? Ben, cette petite différence entre la volonté de lever son bras et le bras qui se lève, on arrive à l'enregistrer dans le cerveau. Alors ça, on l'avait par exemple dans le cerveau de Glenn Gould, dont ses parents, le pianiste Glenn Gould, donc canadien, avait beaucoup joué dans sa jeunesse, il avait formé sa technique, et après il avait une espèce de phobie des claviers, il mettait des gants, des mitaines pour jouer, donc il passait son temps à jouer dans sa tête. Il lisait les partitions, et puis il jouait dans sa tête sans bouger les mains, et le programme moteur correspondant au morceau sculptait son cerveau, quoi. C'est-à-dire que le jour où il se mettait au piano pour enregistrer le morceau, le programme était prêt et il pouvait l'enregistrer assez rapidement. Donc c'est une technique qu'avaient trouvé aussi les sportifs aux Jeux Olympiques de 1968 où les skieurs se repassaient dans la tête la descente à ski avant de l'effectuer, ils étaient nettement meilleurs, quoi. Ceux qui avaient la médaille d'or utilisaient cette technique. Alors cette information, cette volonté de créer ce mouvement dans notre tête correspond à un signal qui est enregistrable. Et là, c'est fait déjà depuis quelques années, on peut capter ce signal avec des électrodes, le coupler à un ordinateur et coupler cet ordinateur à une prothèse, par exemple une prothèse de bras, qu'on peut donc activer par la pensée. Et donc on peut coupler ce bras articulé à notre corps et l'activer via l'ordinateur par notre pensée. Ce qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc ça va se développer. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être utile pour les gens paralysés. Mais on peut imaginer d'autres applications. Puis ça pourra très bien se faire sans fil. Donc on pourra commander des choses à distance. Et il y a 2 ans, celui qui a trouvé cette technique est un Brésilien, a réussi à faire la même chose avec des souris dans 2 laboratoires différents, une au Brésil, l'autre aux États-Unis, des expériences dans lesquelles la souris brésilienne va trouver la solution à un problème pour avoir de la nourriture et le transmettre à la souris américaine qui a pas les informations qu'a la souris brésilienne, et la souris américaine va réussir à trouver la nourriture également. Donc c'est une espèce de transmission sans fil, bon ça marche pas à tous les coups et ça marche plus souvent que ne le voudrait le hasard. Donc c'est perfectible. Oui, on peut se diriger comme ça vers une espèce de télépathie. Donc ça, c'est bien en route et c'est quelque chose de formidable. Or peut-être, si on arrive à coupler comme ça notre cerveau à des outils informatiques, ça pourra aussi aider dans des problèmes de mémoire ou l'accès à tout un tas de données. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que maintenant, on est capable, par des expériences, si on vous montre des images, en regardant dans le cerveau, dans la partie postérieure du cerveau, l'endroit où sont décryptées ces images, on peut avoir des informations qui nous permettent de dire quelle image vous avez vue. Donc ça pourrait être développé. On pourra lire sur un cerveau, je pense, dans un futur pas très éloigné, les images qui ont été vues, les sons qui ont été entendus. C'est une espèce de neuroarchéologie qui sera possible. Et puis on sait aussi qu'on fabrique des neurones, pas beaucoup, quelques dizaines de milliers par imaginons qu'on n'arrive pas un jour ou l'autre à stimuler cette fabrication, ça nous permettra en particulier d'agir dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et une technique extraordinaire, ça pourrait être par la musique. Il y a une quarantaine d'années, il y avait un savant de Princeton qui s'est fait appeler Évariste. Et c'est à l'époque des élucubrations d'Antoine. Il a fait une chanson qui s'appelait « Quel est l'animal qui a inventé le calcul intégral ?» Chanson qui a été un succès, qui lui a permis jusqu'à aujourd'hui de ne plus travailler. Et il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il avait trouvé un petit peu la musique des protéines. C'est-à-dire qu'il avait trouvé la protéine qui synthétisait pour la pousse, je crois, de plantes tomates, qui constituait que de 4 acides aminés. Et donc, il avait trouvé la musique, les 4 notes, entre guillemets, qui permettent de produire ces 4 acides aminés, et donc cette protéine. Et ces travaux marchaient, on peut les répéter, il y a des élèves de terminale en classe de SVT qui ont réussi à reproduire ces expériences. Alors jusqu'ici, c'était un petit peu dans les oubliettes, mais il y a une société qui vient de racheter son invention et qui est en train de travailler sur des plantes avec son invention. Peut-être que cette technique, ce serait merveilleux, pourrait être prouvée, améliorée, peut-être qu'elle sera applicable chez l'homme. Imaginez l'importance qu'il pourrait y avoir dans le traitement du cancer ou des choses de ce genre. Enfin, ça, c'est du futur, mais un futur qui est peut-être pas si éloigné de ça de nous. Et puis, la grande découverte en neurologie aussi, c'est le fait que le plus important dans notre cerveau, c'est les connexions entre les différentes zones de notre cerveau. Avant, on raisonnait par zone, telle zone pour le langage, telle zone pour le plaisir ou des choses comme ça. En fait, c'est la connexion qui est de loin la plus importante. Au même titre que dans la vie, c'est le lien entre les individus qui est de loin la chose la plus importante que les individus eux-mêmes. Quelqu'un de seul et sans interaction, son cerveau va s'atrophier. Oui, Robinson Crusoe, il a besoin de vendredi. Dans Seul au monde, le film avec ce Tom Hanks, il a besoin de se créer un personnage imaginaire avec lequel il va dialoguer. Notre cerveau est un cerveau social, il ne fonctionne qu'en fonction qu'avec les interactions. Donc je pense qu'on va faire tout un tas de découvertes sur ces connexions dans notre cerveau, puisqu'on arrive à les voir, et qu'on va pouvoir aussi certainement les améliorer.
Mais alors, il y a des perspectives absolument extraordinaires qui s'annoncent à l'horizon. Vous êtes plutôt optimiste?
Alors, je suis optimiste en ce qui concerne le progrès. Par contre, en ce qui concerne l'évolution du fonctionnement de notre cerveau, à mon avis, elle va être extrêmement lente. Vous voyez, l'homme du troisième millénaire ne doit pas avoir beaucoup de différence dans celui du deuxième ou du premier. Je pense qu'il n'y a pas de progrès dans les comportements, et l'actualité tous les jours nous en donne des exemples. Donc on a toujours, et pour à mon avis des milliers, sinon des millions d'années encore, on a toujours dans notre cerveau deux parties essentielles. Une partie qui est la partie la plus ancienne, qui est celle des émotions, mais aussi des besoins un peu primaires, la faim, la soif, dormir, se reproduire. Donc c'est la partie du cerveau aussi qui est dédiée à la fête, c'est la partie du cerveau qui est dédiée à Dionysos, et cette partie du cerveau-là, elle est très très importante. Et puis, la deuxième partie du cerveau qui est arrivée après dans l'évolution, c'est celle qui nous permet de parler, de raisonner, c'est le son intellectuel qui est dédié, dirons, à Apollon. Cette partie plus récente, elle est un petit peu dominée par la partie dédiée à Dionysos qui ne demande qu'à prendre le dessus à tout moment. Et les deux parties peuvent fonctionner de manière complètement autonome. C'est-à-dire on peut dire quelque chose et puis faire exactement l'inverse. On en a la preuve tous les jours. Donc le fait que ces deux activités dans le cerveau puissent travailler en harmonie, à mon avis, c'est pas de mal avec. Donc il y aura toujours ce mode de fonctionnement intellectuel qui sera semblable avec l'envie de dominer, etc. Donc pour ne pas avoir de guerre, il faudra bien entendu la préparer pour qu'elle n'ait pas lieu. Il y aura toujours des envies de dominer, il y aura toujours des mensonges, il y aura toujours... Il n'y a pas de raison que l'homme évolue sur ce plan-là, même si la technique évolue. L'histoire se répétera malheureusement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut se modifier? Ben, on voit que quand les pays atteignent un certain niveau de richesse, le renouvellement des générations se fait moins. Regardez l'Allemagne où il y a moins de 2 enfants par couple. Donc, obligatoirement, population mondiale va se modifier dans les années qui viennent. Bon, ce sera une mixité, ce sera un renouvellement qui peut être salutaire à la vie, quoi, ça c'est pas. Maintenant, le grand avenir, ce qu'on voit, c'est bien sûr c'est le numérique, puisque tout le monde est envahi, c'est complètement addictif, on peut plus se passer des ordinateurs, on peut plus vivre sans. Donc il y a toujours le risque de ce qu'on pourrait appeler un dark age, comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que si les grands récepteurs qui centralisent toutes les données au monde, il n'y en a pas tellement d'endroits où les données sont rassemblées. Si c'est... Et ces banques de données sont neutralisées, on revient au Moyen-Âge aussi sec. Bien entendu, ça fait évoluer aussi notre vie, puisqu'on voit de plus en plus de gens maintenant qu'on appelle des no-life men, enfin des gens qui restent enfermés chez eux, avec tout ce qu'il leur faut autour d'eux, ils sont connectés à Internet, ils ont des outils numériques, et ils vivent, ils commandent tout. J'ai rencontré récemment un facteur là qui amène les colis, qui dit qu'il rencontre de plus en plus des gens complètement pâles, qui commandent tout sur Internet. Ça c'est une évolution liée un petit peu au numérique.
Merci beaucoup de cette perspective. Vous avez choisi, je pense, un morceau de musique.
Alors le morceau de musique, on a parlé de Glenn Gould, c'est quand même un pianiste fabuleux. Et puis ce morceau s'appelle Echo, c'est du Bach, c'est un morceau très vivant, très tonique, qui donne de l'énergie, qui est très très joyeux. En même temps, dans Bach, les thèmes reviennent, ils se répètent, c'est un petit peu histoire un peu d'éternel retour, tel que pouvait nous en parler Nietzsche.
Merci beaucoup Pierre, et à bientôt. Voilà, que retenir de cet entretien avec Pierre ? Trois perspectives, même si l'une ou deux ont été un peu moins abordées. La première, qui l'a été largement, c'est que l'exploration du cerveau et toutes les découvertes que nous faisons actuellement révèlent des possibilités absolument extraordinaires pour la vie et tout au long de la vie, en particulier pour le cerveau. Deuxième perspective, les usages que nous faisons de ces recherches sont très très lents. Et là, c'est peut-être l'éducation qui va faire basculer une certaine rapidité, une certaine généralisation des découvertes pour tous. Et puis enfin, il y a la troisième dimension, peu abordée, on y reviendra tout à l'heure, ce sont les manipulations. Alors pour finir cette première partie de l'émission, écoutons la musique choisie par Pierre, Bach, Gould, et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. Suivons cette émission Paroles d'écriture. Ce soir consacré, pour la première fois, il y aura trois émissions sur ce thème, ce futur qui avance parmi nous. Nous avons tout à l'heure entendu Pierre Lemarquis, nous allons maintenant accueillir Philippe Granarolo. Mais pour contextualiser cette émission, je voudrais vous donner quelques informations. D'abord, nous allons, dans les deux autres émissions, recourir à des gens que de la région PACA. Un scientifique, un anthropologue, un économiste, un sociologue, Paul Charby, qui est le président d'une remarquable association à Montsartou et qui terminera l'émission avec nous. Et puis une femme qui vit au cœur de la nature, loin, loin de la ville, loin de la civilisation, dans les Hautes-Alpes, qui produit des livres extraordinaires. Vous avez compris qu'à travers cette démarche, on découvre trois axes. Le premier sont les découvertes, l'exploration, comme dans le cerveau. On va le voir dans d'autres domaines. Puis, il y a les nombreux usages que l'on peut avoir, mais ça avance lentement. C'est l'éducation qui porte ces explorations, et parfois c'est trop lent. On travaillera là-dessus. Et puis, parfois, il y a des risques et des dangers. Pour ces trois émissions, nous organiserons un dossier qu'on mettra à votre disposition avec une documentation, des textes, une bibliographie, une cytographie tout à fait unique pour vous, chers auditeurs de Gora Côte d'Azur. Ce document sera composé sur le thème suivant. Il y aura 9 entrées, la mondialisation, la technologie, le vivant, les institutions, la déliance, la violence, l'être en situation. Ce thème, ce petit catalogue, a été fait par 16 cadres qui sont actuellement à l'université d'Aix-en-Provence. Ils viennent du domaine éducatif, sportif et culturel. Ils se préparent à être des praticiens-chercheurs. Une nouvelle génération de cadres dont on parlera peut-être dans peu de temps. Continuons notre émission et accueillons Philippe.
Bonsoir Philippe. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission. Philippe, vous êtes à côté de Toulon, à la Garde exactement. Vous êtes agrégé de philosophie. Vous êtes un expert de niche, nous en reparlerons tout à l'heure. Et pour la petite histoire, vous occupez à l'Académie du Var le 38e fauteuil.
Le 38e fauteuil, exactement.
Voilà. Et alors, il correspond à quoi? À une science? À quoi?
Non, les fauteuils n'ont pas de spécification. Ils sont libérés au fur et à mesure des départs des académiciens. Donc j'en ai hérité après avoir été membre associé pendant une quinzaine d'années. J'en ai hérité en 2004 et mon prédécesseur était un médecin. Donc il n'y a pas de spécificité des fauteuils.
D'accord, Philippe. Alors, dans cette émission sur ce futur qui avance parmi nous, c'est à vous qu'on a fait appel comme philosophe. Vous êtes connu et reconnu dans la région et même sur la France entière par vos écrits et par vos conférences et vos interventions très diverses. Vous êtes quelqu'un de particulièrement dynamique à la Garde et dans tout le Var. Selon vous, Philippe, qu'est-ce que nous dit la philosophie pour le futur ?
Cette thématique majeure. Il faut rappeler avant tout que le futur, c'est une préoccupation récente, au fond, pour les hommes, dans la mesure où, jusqu'au XVIIe siècle environ, on était dans un temps linéaire circulaire, où la préoccupation de l'avenir était quasiment absente. Donc c'est à partir du XVIIIe, XIXe siècle que c'est devenu une thématique importante en philosophie. Et là, il s'est passé une sorte de catastrophe, c'est-à-dire qu'au début du XIXe siècle, philosophe qui est un immense philosophe, par ailleurs, qui est Hegel, qui émet un diktat, je ne vois pas d'autre mot, en disant « Hic Rhodus, hic Saltus » dans sa préface de la philosophie du droit, il ne faut pas égarer la philosophie du côté de l'avenir. La philosophie doit penser en arrière, doit penser ce qui s'est déjà déroulé. Elle est tout à fait imparfaite pour se propulser en direction de l'avenir. Et là, il y a donc une sorte de diktat hegelien qui a beaucoup marqué les esprits. Il faut attendre Nietzsche, au fond, à la fin du XIXe siècle, pour qu'on relève le défi et qu'enfin on se tourne vers le futur.
Alors justement, Philippe, vous qui êtes un expert de Nietzsche, et je crois que vous sortez au mois de mars un ouvrage, Nietzsche, 5 scénarios pour le futur.
Tout à fait, qui est une partie importante, disons, revue de ma thèse de doctorat. Jusqu'alors, je n'avais publié que la partie concernant le retour éternel, c'est l'individu éternel qui s'était sorti chez Vrin en 1993. Et là, tout ce qui concernait, je dirais, la futurologie, parce que c'est comme ça que je la considère, de Nietzsche n'avait pas été publié, sinon à travers quelques articles, disons, émis ça et là dans des revues. Et donc, j'ai enfin décidé de me remettre au travail et de livrer au grand public cette lecture que je crois originale, qui fait de Nietzsche véritablement un explorateur de l'avenir.
Alors, quels sont ces 5 scénarios, Philippe ?
Alors, les 5 scénarios, il ne faut pas les voir comme des scénarios successifs. Bien sûr, ils s'entremêlent, ils s'entrecroisent, mais je crois avoir distingué 5 scénarios, malgré tout, très distincts,
qui sont relativement successifs, même si encore une fois ils se recoupent. Un premier, c'est la période wagnérienne où Nietzsche imagine un petit peu avec le romantisme allemand un retour de la Grèce antique en Allemagne, mais déjà elle se sépare de Wagner bien au-delà de l'Allemagne. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé le scénario des esprits libres, où dans la période 1878-1882, et beaucoup d'incompréhensions ont été liées à ces textes. Il se fait le photographe, si j'ose dire, d'un monde dirigé par la science et la technique, et les lecteurs de Nietzsche ont cru voir une sorte d'appel nietzschéen à ce monde, alors qu'il s'agit simplement d'une description neutre dont Nietzsche ne nous cache pas les dangers considérable que ce monde à venir préfigure. Et puis il y a bien sûr le futur du surhumain, auquel j'ai consacré d'ailleurs en 2013 un petit ouvrage, Nietzsche et les voies du surhumain. Il y a ce que j'ai appelé les intuitions apocalyptiques, qui sont nombreuses, parce que Nietzsche ne nous cache pas que l'avenir est ouvert et que dans cet avenir, il y a la possibilité d'une extinction de l'espèce, voire d'une disparition pure et simple de l'humanité. En cela, il est vraiment très contemporain. Et puis, il y a la fin de l'œuvre, ce qu'il appelle maladroitement la grande politique, qui est quand même intéressante, parce que même si j'ai montré que Nietzsche rompt avec ses certitudes, au fond, les plus fondamentales, commence à être un peu délirant d'une certaine manière, malgré tout et malgré lui peut-être, il annonce les grands totalitarismes et les catastrophes politiques du 20e siècle. Et donc ces textes sont quand même à prendre en considération. Voilà grosso modo les 5 scénarios que j'ai trouvés en relisant l'œuvre et l'œuvre posthume en particulier, bien entendu, qui était inaccessible jusqu'à une époque récente.
Philippe, vous qui êtes à la fois philosophe et expert de Nietzsche, que diriez-vous comme scénario le plus probable pour l'avenir ?
Bien, écoutez, il y a à la fois le rêve et la lucidité. Le rêve, c'est qu'effectivement l'humanité prenne en main son destin et se donne véritablement un avenir. Je commençais régulièrement mon année de Cagnes avec mes étudiants en leur posant la question, est-ce que vous savez combien ont vécu sur Terre les dinosaures, les diplodocus, les brontosaures ? Alors on était à l'époque de Jurassic Park, en général ils avaient la réponse, 70 millions d'années. Je dis, l'homme est sur Terre, d'après les savants, depuis 3 ou 4 millions d'années. Donc encore 66 millions d'années pour faire simplement match nul avec le dinosaure ou le diplodocus. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on signe avec la nature un contrat que l'on nous accorde 66 millions d'années. Qui peut imaginer ce que serait l'homme dans 66 millions d'années, mais même dans 10 millions d'années, mais même dans 1 million d'années, sachant le chemin parcouru. Donc, je crois que le drame de notre époque, c'est qu'on hésite à regarder vers cet avenir lointain qui nous est acquis si nous ne faisons pas de bêtises monstrueuses. Et donc, l'homme est au début du début du début de son évolution et la philosophie a ce mouvement de développement qui est inscrit vraiment au cœur de notre espèce.
Philippe, vous qui êtes un philosophe audacieux, à la différence de d'autres qui oublient ou qui ne veulent pas parler du futur, que diriez-vous à des jeunes actuellement en tant que professeur de philosophie ?
Je leur dirais d'aimer leur époque, je leur dirais d'aimer leur temps, de ne pas être gagnés par la morosité, la frilosité et une certaine désespérance des adultes. Il est tout à fait frappant qu'aujourd'hui, ce sont des philosophes de 80 ans, Pierre Morin ou Michel Serres, qui regardent positivement vers l'avenir en écrivant des livres merveilleux, et que les philosophes de jeunes générations sont dans la répétition et les ressassent, ils sont dans la morosité, dans les passions tristes, dirait le grand Spinoza. Moi, je leur dirais d'aimer leur temps et de regarder positivement vers l'avenir. J'ai organisé une manifestation qui s'appelait Témar à la Garde en novembre dernier, qui était consacrée au thème Aurore, pour justement donner cette dynamique et essayer d'accompagner un rebond, je dirais, de l'humanité, alors que tout aujourd'hui voudrait nous engluer dans une sorte de morosité, de répétition qui me semble absolument maladive au sens nietzschéen, vraiment de la maladie.
Finalement, plus que jamais, on a besoin d'une pensée philosophique.
Alors, complètement. La philosophie me semble être la seule discipline, ou quasiment la seule, qui peut allier les deux instruments ou les deux outils qui nous permettent de venir, qui sont la raison, car bien entendu il ne faut pas oublier la raison, loin de là, mais aussi l'intuition et l'imaginaire. Donc c'est ce mixte de raison et d'imaginaire qui me semble être le propre d'une vraie philosophie, de celle dont on a besoin aujourd'hui.
Merci Philippe. Alors vous allez nous rappeler votre site parce que je crois qu'il est visité par des milliers de visiteurs régulièrement.
C'est... Tout à fait.
Alors votre
site. Oui, c'est un site qui a un succès croissant. J'y mets la plupart de mes textes, j'y mets beaucoup de choses, une citation quotidienne qui a beaucoup de succès, qui est commentée. Et donc le site le nom est très très simple, www.granarolo, mon nom, GRANAROLO.fr. Voilà, c'est le site où vous trouvez mes textes, mes références, l'annonce de mes conférences. Donc c'est un site qui est un site philosophique parmi ceux qui ont la meilleure fréquentation parmi les sites philosophiques français.
Et votre prochain livre, le 20 mars, Nietzsche, 5 scénarios pour le futur, apparaît chez Encre Marine.
Chez Encre Marine, attaché au groupe des Belles Lettres, dont je compte beaucoup sur ce livre pour qu'on découvre un autre Nietzsche. Ce Nietzsche, par exemple, qui apparaît dans Zarathoustra, dans cette phrase que vous me permettez de citer, « plus loin mon œil, que de mers alentours, que d'avenirs humains dont point l'aurore, et au-dessus de moi, quelle paix aux doigts de rose. » Eh bien voilà pour moi qui est le vrai Nietzsche, non pas celui de l'amorosité, de l'annonce de la catastrophe, mais ce Nietzsche plein d'espoir, plein de rêves, qui regarde vers l'avenir, qui est à la fois poète et philosophe, et dont nous avons un grand besoin aujourd'hui.
Merci beaucoup Philippe, et nous allons continuer par écouter une musique de Jean-Michel Jarre que vous avez vous-même choisi, l'Équinoxe.
Tout à fait.
Merci Philippe et à bientôt.
Merci.